106.9 Mauricie, commentaire. Que la Mauricie se lève. Voici Maître François Vigeant.
Salut François.
Ça va?
Ça va bien, ça va bien.
J'entends beaucoup de choses sur Aline Chrétien, mais il y a un angle assez intéressant, hein? C'est son agenda politique. Aline Chrétien avait ses propres idées politiques. C'était une progressiste démocrate, pardon, qui d'ailleurs était très amie avec Hillary Clinton.
Oui, tout à fait.
Et ça remonte à bien longtemps. Ça remonte évidemment à la présidence du mari d'Hillary Clinton, mais dans les années 90, les épouses de premiers ministres des pays les plus développés, on dit les épouses parce qu'à l'époque c'était avant Merkel, avaient leur propre conférence et leur propre organisation, qui, entre autres, avait pour but de lutter contre la maladie des enfants. Moi, je me rappelle, à la fin des années 90, il y avait eu cette conférence-là avait eu lieu à Ottawa, et Mme Chrétien avait ramassé des millions pour l'aide. À ce moment-là, c'était les enfants qui résistaient mal ou pas du tout au vaccin, et qui étaient donc exposés à des maladies graves. Et elle avait même présidé une de ces conférences-là avec grande modestie et humilité, parce qu'elle n'était pas particulièrement à l'aise d'un cadre trop formel. Elle est restée après ça, parce qu'à l'époque, Hillary Clinton commençait sa carrière politique. Elle tentait de se faire élire au Sénat de l'État de New York, elle avait des ambitions présidentielles. Mais là, on est vraiment loin avant 2008. Là. On est une dizaine d'années avant.
En fait, François, si tu me permets de compléter, quand tu regardes, moi j'ai écouté un documentaire sur Hillary Clinton sur Netflix, et au départ, là, c'était elle qui aurait dû devenir la présidente. En termes de compétences, d'intelligence, je ne veux pas être méchante envers Bill, là, mais on est...
C'était un bon joueur de saxe.
Ben, c'est ça. C'est fou comment les... Puis je dis la brillante des deux, c'est pas qu'il était pas intelligent, je m'exprime pas bien, mais tu comprends ce que je veux dire. Mettons, le potentiel de carrière politique, c'est elle qui l'avait.
Oui, absolument. Mais à une époque où il n'aurait pas été vraiment, parce que les ambitions de Clinton étaient présidentielles depuis l'université. Ce sont deux personnes qui ont fait du Ivy League, sont allées à Arkansas. Mais tu as raison de dire. Mais c'est parce qu'à l'époque où la décision s'est prise, on est à la fin des années 60, tout début des années 70. C'était difficile de s'imaginer qu'éventuellement une femme serait présidente des États-Unis.
Tout à fait.
C'est d'ailleurs Mme Chrétien qui avait poussé la carrière de Stéphane Dion.
Exact. Je disais ça hier, je ne savais pas ça, d'ailleurs.
Oui, entre autres, et j'ai toujours été absolument persuadé, ce qui n'a jamais été nié, que la décision la plus importante en 50 ans de politique pour Jean Chrétien, qui est le fait d'avoir résisté aux Américains et de ne pas avoir envoyé des soldats canadiens en Irak, à l'époque, que moi, je pense que ça venait entre autres d'elle.
Je
suis assez convaincu. Parce que c'était Jean Chrétien et sa femme, c'était des personnes qui étaient conséquentes avec leurs opinions. Alors, évidemment, ça, on ne le saura jamais. Là. Jean Chrétien le raconte d'une façon extrêmement drôle, où il n'y intègre pas dans l'histoire son épouse, comme il fait souvent. Mais quand il dit... moi, j'ai déjà entendu Jean Chrétien dire à un moment donné... ouais, mais là, les armes de destruction massive, là, toi, Georges, t'es as-tu vu? Parce que c'est un raconteur absolument fantastique. Bon, il restera toujours une certaine controverse sur qui tenait la statue Esquimaude en 1995 dans la résidence des Chrétiens. Monsieur Chrétien aime bien dire que c'était son épouse. Je pense qu'elle prétendait plus que c'était lui, en tout cas. Mais c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Tu disais, c'est difficile de trouver des comparaisons.
Mais c'est ce que j'essaie de penser, mais remarque qu'on ne connaît pas les gens dans leur intimité, parce qu'avec Serge, tout à l'heure, durant une pause, on se disait, bon, on parlait à Mila Mulroney, mais évidemment, je ne connais pas Mila Mulroney.
Non, c'était très, très différent.
C'est différent, hein,
je pense. C'était des vies différentes. Vies, même, tu peux retourner à Mme McTeer avec l'ancien chef du Parti conservateur dont le
Joe
nom
Clark.
M'échappe, là, Joe Clark, merci, qui venait, elle, d'une famille totalement politisée. Oui. Qui était quand même extrêmement peu impliqué. La femme de M. Trudeau, père, n'était pas impliqué en politique, comme on sait. Bon, c'est difficile. Honnêtement, là, c'est difficile de trouver. Ouais. Mais aussi, c'est parce que c'est pas un hasard. C'était une union qui était hors de l'ordinaire aussi. Enlève la politique, là.
Ouais.
OK? Alors, il y avait quelque chose, il y avait une osmose. Il y avait quelque chose dans ce couple-là à la base. Mm-hmm. Qui faisait en sorte que, de toute façon, en partant, c'était bien spécial.
Ouais,
alors, faut pas s'étonner qu'après, ça l'est devenu en politique, mais s'il avait fait d'autres choses, je pense que ça aurait été spécial quand même. Il y avait quelque chose dans l'union de ces deux personnes-là qui sortait de l'ordinaire en soi avant même de parler de la politique.
Bien, alors, juste le fait, François, même, tu sais, de traverser ensemble 63 années de mariage, qui, tu sais, aujourd'hui, c'est fantastique.
Mais là, la moyenne, c'est 8,5, alors...
Bien, ce que tu comprends, on verra plus ça, là. Tu sais, c'est de plus en plus rare. Alors, en soi, puis tu sais, avec leur haut et leur bas aussi, là, comme couple et tout, mais juste de dire, OK, on fait une équipe, puis on tient cette équipe-là en vie depuis 63 ans, aujourd'hui, c'est un exploit, là.
Ah non. Puis si vous voulez lire des histoires vraiment intéressantes sur son épouse, achetez le dernier livre de Jean Chrétien, celui qui est sorti absolument. Il y a 2-3 ans sur les petites histoires.
Oui. Écoutez,
ce sont des petites histoires de 3-4 pages. Ça se lit avant de se coucher dans le lit d'une couple. Là. C'est absolument, c'est très drôle.
Honnêtement, je suis bien d'accord avec toi.
Un peu de tennis.
Oui. Oui, bien sûr.
Ma joueuse,
Eugénie a presque gagné.
Pratiquement gagné. Elle a perdu au bris d'égalité du troisième set. Elle a sauvé 6 balles de championnat. Elle perdait 3-0 au troisième set, 4-1, 5-3. Sauve 6 balles de match. Puis réussit à faire le bris d'égalité. On verra. Là, elle vient de gagner 100 places. Ils vont annoncer demain le nouveau classement. Elle devrait tomber autour de 155-160. Elle est à 272e. Mm-hmm. Ça va peut-être lui permettre de jouer certains tableaux de qualification dans des tournois importants. On verra.
Es-tu de retour, selon toi?
Il y a une chose que je peux te dire. OK? La première des choses, là, c'est que dans les milliers et les milliers et les milliers de jeunes femmes qui essaient de devenir des joueuses professionnelles, là, mm-hmm. et de faire le top 50, dans le monde, il y en a des milliers, comme tu sais, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Ça va? Seulement quelques-unes ont le talent physique pour y arriver. Hein? Les 98% des joueuses qui sont en train de tout donner leur vie pour faire ça n'ont zéro chance parce que, de toute façon, ils n'ont pas les qualités physiques que ça prend. Moi, j'aurais aimé ça être Wayne Gretzky. Mais même si j'avais patiné 20 heures de temps pendant 15 ans, ça n'aurait rien servi. Okay?
Non.
Alors, il faut que tu ailles une aptitude physique. Elle, on sait une chose. Elle l'a. Oui. Parce qu'elle l'a prouvé. Ça va?
Parfait. Mm-hmm.
Après ça, est-ce qu'elle peut retrouver une confiance suffisante pour retourner dans le top 50? Bien, ça, une chose qu'on peut penser, ça peut se faire. Ce qu'on ne peut pas inventer chez un joueur de tennis, c'est le talent physique. Ça, tu peux pas.
Tu l'as ou tu l'as pas.
Tu l'as ou tu l'as pas.
Évidemment, il y a l'entraînement, mais ça prend le talent de base. Là.
Exactement. Elle, on sait qu'elle l'a. Après ça, elle a 26 ans, il n'est pas trop tard. Puis, c'est possible. Est-ce qu'elle va réussir à le faire? La réponse, c'est je ne le sais pas. Mais si vous me demandez qui a une chance de le réussir, bien, elle a fait partie de celles qui ont des chances au moins.
Oui, mais dis-moi, est-ce qu'elle a fait du ménage autour d'elle? Parce que tu sais, tu parles d'aspect physique, mais au tennis, l'aspect mental est tout aussi important, sinon davantage. Tu sais, à un moment donné, c'était un entraîneur après l'autre. Bon, on sait que familialement, là, on n'a pas toujours été super bien entouré.
Évidemment, l'erreur fondamentale, c'était de congédier Nick Saviano au tout début. Saviano, c'est le premier instructeur, c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a emmené là. Puis à un moment donné, il y a une chicane avec la famille, puis Saviano est allé entraîner quelqu'un d'autre, puis là, après ça, tout a...
Ça a basculé. Qui l'entraîne aujourd'hui, François? C'est qui son coach?
Je ne le sais pas, il y en a eu tellement, je n'ai pas regardé, honnêtement, les derniers. Je ne sais même pas si elle peut s'en... Payer un temps plein actuellement. Là, je ne suis pas au courant de ça. Je ne connais pas les liens qu'elle a avec Tennis Canada qui ne doivent pas être.
Très bon. Mais attends un petit peu. Tu me dis, tu ne sais pas si elle a le moyen de se payer un entraîneur. Mais elle a quand même fait des sous, là, cette fille-là.
Oui,
autant en commandite.
Oui, je comprends, mais comme Ezigo, je veux dire, oui, elle a fait des sous, mais quand tu parles d'avoir une équipe qui te suit à temps plein, là, on parle de pas mal d'argent, là.
Okay? Mais ça peut représenter quoi, combien par année pour un joueur, mettons?
Pour un joueur, là, est-ce qu'on inclut tout? Les traveling expenses, toutes les dépenses.
Non, mais juste l'entourage. Là. Pour ton entourage,
l'entourage,
par année,
les voyages, participer au tournoi, c'est pas loin de 750 000.
Oh, OK.
Non.
Par année? C'est...
Oh, oui. Si tu voyages pleine équipe, là, on se comprend,
ouais,
là?
Comprends.
OK, alors, je pense pas que ça soit à sa portée, nécessairement. Okay. Actuellement, ça fait un petit bout qu'elle a pas gagné d'argent.
Non, c'est vrai, t'as raison.
Génie. Oui. Ouais, puis de quelle façon tout ça s'est dépensé, a été investi dans une famille quand même au comportement qui est hors norme, là, je ne sais pas, c'est pas de mes affaires.
Non,
puis, pour trouver un bon instructeur qui va aller suivre une joueuse qui fait des qualifications, c'est pas clair non plus. Mais, elle a joué 6 matchs en 6 jours, c'est bien impressionnant, ça va être le fun à voir. On va regarder qu'est-ce que ça dit. Deux mots sur le US Open. Ça fait longtemps que je dis qu'il faut que je change les règlements dans les tournois du Grand Chelem. Hier, on a eu la preuve. Il y avait Thiem qui jouait contre Zverev. Ça a été de l'excellent tennis. Et à un moment donné, au bout de 3 heures, c'est devenu du tennis... c'était pas loin du tennis amateur.
En fait, c'est parce que ça faisait pitié. Là. Les deux ont plus d'énergie, plus de jus, plus rien.
Là, ce qui arrive est ceci, c'est que 3-5 de 7, ça a été inventé quand les joueurs fournissaient des efforts physiques infiniment moins difficiles que maintenant.
Mm-hmm.
Alors, je suis pas certain, moi, que c'est encore une bonne idée de faire jouer à des joueurs qui dépensent 3 fois plus d'énergie à chaque coup qui frappe, de les faire jouer encore pendant 4h30 de temps. Si tu joues sur gazon à Wimbledon, il n'y en a pas de problème. Mais tu joues sur le ciment, c'est extrêmement difficile, extrêmement dur. Puis hier, moi j'aurais aimé que le joueur qui gagne soit celui qui a joué le meilleur tennis. En fait, hier, c'était qui va réussir à rester debout le plus longtemps.
Ouais, c'est à peu près
Alors, je ne sais pas. Puis en plus, ils n'ont pas joué au soleil hier. Là. Ils ont joué en début de soirée, ils ont joué dans des conditions. Ces deux joueurs-là sont supposés être capables de jouer le temps nécessaire pour jouer une finale. Hier, on a vu que ce n'était pas le cas. Évidemment, il y a tout ce qui affecte le déroulement des joueurs et de leur entraînement et de leur suivi et de leur routine à cause de la COVID. Ça, c'est vrai que ça a pu jouer énormément. Mais quand tu es rendu que tu as deux joueurs, un qui n'est pas capable de rendre la balle jusqu'au filet parce qu'il n'y a pas de force, puis l'autre qui ne peut plus lifter un revers, il va falloir repenser peut-être certaines choses. Est-ce que à cause de l'évolution du tennis, est-ce que c'est pensable encore de les faire jouer pendant 4h30 de temps sur le ciment? Peut-être pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des tournois avec des formules différentes dépendant qu'ils jouent sur le ciment par rapport à la terre battue ou au gazon? Ça aussi, il va falloir que ça soit. Parce que hier, c'était pas adéquat. Mais ça a été extrêmement excitant, par exemple.
Oui, c'était divertissant, mais à la fin, à la limite, ça faisait un peu pitié.
Oui, puis je pense que la santé des joueurs était en jeu carrément à la fin. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir ces règlements-là.
Et on s'en parle demain.
Salut, bye.
Salut, bye-bye. François Vigeant, du lundi au jeudi, 7h35.